Voilà, chers frères et sœurs, je vous salue chacun, ceux que je n'ai pas eu encore le temps de voir ce matin. Nous avons lu tout à l'heure en Actes, au chapitre 22, un petit peu cette défense de l'apôtre Paul. Il se retrouve face à toute une foule hostile qui l'accuse. Et puis avec des Romains qui, je dirais, ne comprennent pas grand-chose à ce qui est en train de se passer. Et j'ai relevé dans ce chapitre, lorsqu'il raconte son témoignage, l'apôtre Paul, voilà ce que le Seigneur lui dit. Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Ça, c'est une chose extraordinaire. Que Paul puisse avoir été choisi, destiné à entrer dans une relation privilégiée avec le Dieu créateur, à voir le juste. Et le juste, c'est Jésus-Christ. Lui qui est juste et qui a porté nos péchés. Voir le juste, entendre les paroles de sa bouche, cette intimité, cette proximité avec Jésus-Christ qui font tout le trésor de la vie de l'apôtre Paul. Alors, si vous regardez en 2 Timothée 4, en 2 Timothée au chapitre 4 et au verset 16-17, ce n'était pas lors de ce procès ni de cet emprisonnement, c'est un petit peu plus tard, lorsque Paul est à Rome. Mais le voilà à nouveau devant un tribunal et c'est compliqué. Il se retrouve seul et même, dit-il au verset 16, « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. » Il dit, voilà, même les appuis sur lesquels j'aurais pu compter, sur lesquels j'espérais compter, peut-être des appuis politiques, en tout cas un soutien par la présence, qu'importe. Les uns après les autres, ils sont tombés, ils ont disparu, ils se sont reculés, et je me suis retrouvé tout seul. Personne. Personne autour de moi. Tous m'ont abandonné. Et Paul ne leur en veut pas tellement, hein. Il est réaliste face à la pression et il dit que cela ne leur soit point imputé, c'est-à-dire retenu comme une faute de la part du Seigneur, que le Seigneur passe là-dessus. Dit-il. Et c'est le verset 17 qui est extraordinaire. Il dit, c'est le Seigneur qui m'a assisté. Tout à l'heure, il disait, personne ne m'a assisté. Tous m'ont abandonné. Et là, il dit, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Voilà l'expérience que Paul peut vivre et que nous pouvons vivre. Peut-être parfois nous sommes comme ce paralysé. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, Jésus arrive à la piscine de Bethesda. Et c'était un endroit un peu particulier, parce qu'apparemment, un ange, parfois, venait L'eau était agitée et puis les paralysés qui étaient là autour attendaient de voir le mouvement de cette eau en se disant « ça y est, c'est l'ange qui arrive ». Et le premier qui réussissait à aller dans la piscine, il était guéri. Alors, quand on ne peut pas bouger, quand on est tétraplégique, c'est compliqué de sauter dans l'eau. Mais vous avez peut-être des amis, des proches qui vous entourent et puis qui vous assistent et qui sont là pour vous et qui peuvent guetter avec vous et puis à la une, à la deux, à la trois et hop dans l'eau. Puis Jésus arrive et il y avait quelqu'un de malade depuis 38 ans. Et le verset 6, Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Mais bien sûr, il veut être guéri. Mais le verset 7, le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais... » Il doit mettre du temps. Un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Peut-être nous sommes comme ce paralysé. Parfois nous nous tournons dans telle ou telle situation, moment de vie. Et on dit, je n'ai personne. Peut-être je suis tombé malade et je n'ai pas tellement de visites, elles sont rares. Et je dis, j'ai pas grand monde qui vient me rendre visite. Peut-être j'ai un chagrin particulier et je dis, mais... j'ai personne qui peut comprendre mon chagrin. Parfois, on aimerait partager des choses, des souffrances, des douleurs, ou pourquoi pas même des joies, mais on dit, mais j'ai personne avec qui les partager. Je n'ai personne qui puisse m'assister dans cette situation. Et ça nous arrive bien souvent de nous retrouver face à des défis, face à des problématiques, même parfois face à un service, à un ministère. C'était le cas de l'apôtre Paul. Et puis on dit, je n'ai personne. L'apôtre Paul, une fois, a dit, je n'ai personne qui partage mes sentiments pour vous et faire preuve de sollicitude. Personne. Un peu seul. Et je crois que l'être humain se sent souvent seul. Souvent, il se tourne autour de lui pour regarder des appuis, pour regarder qui c'est qui pourrait l'accompagner, l'épauler. Parfois, il trouve. Il trouve, mais pour un temps, ou il trouve, mais c'est pas complètement satisfaisant. Parfois, il trouve et c'est suffisant. Et c'est une grâce. Mais il y a un moment ou un autre, face à une question particulière, de toute façon, cette question-là, on est un peu seul. Et cette solitude, ce sentiment d'avoir personne, ça cause du découragement, ça cause de l'amertume, ça cause de la tristesse, peut-être... de la déprime. Et je crois que dans notre société d'aujourd'hui, lorsqu'on interroge les gens pour savoir ce qui leur manque le plus, c'est d'avoir quelqu'un, vraiment quelqu'un. C'est incroyable de voir dans certains pays comme au Japon où c'est devenu une profession que d'accompagner les gens et d'être leur ami. J'ai découvert ça parce que l'autre jour, Églantine a dit à sa mère, moi, je veux être ami professionnel. Elle avait vu une émission de ça au Japon, quoi. Elle dit, mais c'est pas mal ça de comme métier, de passer juste son temps à être l'ami de quelqu'un, quoi. Tu vas au resto avec, tu passes du temps, voilà, tu l'accompagnes. Parce qu'on est obligé de payer finalement, parce qu'on n'a personne. Ah, mes frères et sœurs, nous avons quelqu'un. Amen. Amen. Nous avons quelqu'un. Paul, le Seigneur lui a dit, je t'ai destiné à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Il dit, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, tous m'ont abandonné. Ben, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. En Josué 1, verset 5, regardez cette belle promesse qui est faite à Josué. Josué 1, verset 5, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » On le répète ensemble ? Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Amen. On voit encore le psaume 37. Psaume 37, verset 25. Psaume 37, verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Je n'ai point vu le juste abandonné. Amen. Et nous venons maintenant en hébreu. Plusieurs passages d'hébreu ce matin. Parce que le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est quoi ? Ben c'est que nous avons quelqu'un. Amen. Alors on le trouve en Hébreux 8. Hébreux 8, verset 1. Hébreux chapitre 8, verset 1. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux. Oui, très souvent, on pense, je suis tout seul face à ce défi, face à ce problème. Je ne sais pas comment je vais faire. J'ai personne. Mais le chrétien, il apprend qu'il a quelqu'un. Le point capital qui fait la différence entre celui qui connaît Jésus-Christ et celui qui ne le connaît pas, c'est que celui qui connaît Jésus-Christ, il a un tel souverain sacrificateur. Quelques chapitres avant, au chapitre 4, Hébreux 4, au verset 14, il dit, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et ce beau verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoin. Nous avons quelqu'un. Approchons-nous avec assurance, parce que nous avons un tel souverain sacrificateur duquel nous pouvons nous approcher pour être secourus dans nos besoins. Nos cœurs, frères et sœurs, ont besoin de réaliser à chaque moment où on se dit « mais je n'ai personne », non, je n'ai peut-être personne dans mon entourage humain, peut-être, et le Seigneur le permet, peut-être, pour que je puisse découvrir et vivre avec puissance le fait que si je n'ai personne ici-bas, j'ai quelqu'un là-haut. La présence du ressuscité, la présence du juste, la présence de Jésus qui m'assiste, qui ne me délaisse pas, qui ne m'abandonne pas. Oui, le point capital de ce qui vient d'être dit, nous dit l'auteur d'Hébreux, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur. Alors, quel est-il, ce souverain sacrificateur ? Il est quelqu'un de compréhensif. Lorsque nous pensons « je n'ai personne », non, j'ai le Seigneur Jésus et le Seigneur Jésus me comprend parfaitement. Il est ce Dieu qui s'est fait homme, qui s'est mis dans ma peau, et nous l'avons lu, nous venons de le lire en Hébreux 4, verset 15, « Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses ou à nos détresses, à nos infirmités, à nos afflictions. Au contraire, il a été tenté ou éprouvé, c'est le même mot, comme nous, en toute chose. Le Seigneur nous comprend et il peut compatir. Compatir, c'est la vibration du cœur de Jésus qui vibre de ce que nous vivons. Il nous comprend. Est-ce que quelqu'un te comprend ? Je dis, mais personne ne comprend. Jésus te comprend. Et c'est vrai. Est-ce que quelqu'un, dans ma complexité intérieure, dans mon histoire, dans mon identité, dans ma psychologie, dans mon caractère, est-ce que quelqu'un te comprend vraiment ? On se sent seul, démuni ? Eh bien, la richesse de connaître Jésus-Christ, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur, une telle personne, un tel ami qui me comprend. Il me comprend en tout point, en toute chose. Il lit dans mon cœur et il comprend ce que je ressens. Parfois, on se fait une image un petit peu de Jésus. On dit « Ah, mais je suis pas à sa hauteur. » Oui, c'est vrai. Et du coup, on se fait une image où le Seigneur nous condamne, nous juge, porte un regard sur nous, peut-être irrité. Ben, nous ne devrions pas. Parce que le Seigneur Jésus nous connaît depuis le ventre de notre mère. Il nous a choisis. Il a tracé un plan pour notre vie. Il nous accompagne et il nous comprend. Il nous connaît. Il sait quels sont nos combats, nos doutes, nos faiblesses. Il compatit à nos faiblesses. On dit « Seigneur, mais là je suis faible, je ne suis pas à la hauteur. » Le Seigneur nous dit « Je comprends. Je comprends. » C'est bien quand nous avons à nos côtés quelqu'un de compréhensif sur nos faiblesses. Dans le monde professionnel, avoir quelqu'un qui va être compréhensif sur ce que tu ne sais pas faire ou ce que tu n'arrives pas, c'est pas évident. Hein. Dans la famille, avoir un conjoint qui est compréhensif sur tes faiblesses, c'est pas évident. Hein. Et on peut continuer comme ça. Bien sûr, on trouve, parce qu'en tant que chrétien, nous apprenons à refléter le Seigneur Jésus. Et nous apprenons cet amour qui couvre une multitude de fautes. Et nous apprenons cet amour qui va être compréhensif pour le pécheur. Mais le Seigneur l'est bien plus. Il nous comprend. Ne doutons jamais de lui. En Hébreux 2, au verset 18, le Seigneur nous comprend dans notre souffrance, dans notre douleur, dans ce qui nous tourmente, dans ce qui nous fait mal. D'ailleurs, le verset 17 est extraordinaire, puisque comme il devait nous venir en aide, ce souverain sacrificateur, c'est le verset 16 qui nous dit, c'est pas à des anges qui vient en aide. Seigneur Jésus n'est pas venu pour venir en aide à des anges, mais à sa créature humaine. Amen. Oui, c'est à la postérité d'Abraham, dit-il au verset 16. Cette postérité spirituelle, bien sûr. Ceux qui ont la foi d'Abraham. Et le verset 17 dit, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toute chose à ses frères, c'est-à-dire à nous, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle. Le verset 18, car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Formidable, hein? Oui, il a été rendu semblable à ses frères, à nous, pour être ce souverain sacrificateur plein de miséricorde. Nous avons quelqu'un, il nous comprend, et il nous comprend dans nos tentations. Il nous comprend dans nos tentations. Il nous comprend dans ce combat lorsqu'on veut, on veut céder au péché. Lorsque la tentation est là, on dit, il nous comprend. Il nous comprend dans notre souffrance, parce qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté. Et comme il nous comprend, il peut nous secourir. Il ne se contente pas de nous comprendre. Nous le verrons tout à l'heure, mais il est capable de nous secourir. Parfois, on a quelqu'un pour nous comprendre, mais personne pour nous secourir. Ce ne sont pas forcément les gens qui nous comprennent qui vont être en mesure de nous secourir. Le Seigneur, il est les deux à la fois. Il nous comprend et il nous secourt. Ce qui est formidable, donc quelqu'un de compréhensif, mais quelqu'un de parfait. Ça, c'est la deuxième chose que nous avons en Jésus. Nous avons quelqu'un de parfait. Hébreux 7. Hébreux 7, verset 26. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Vous voyez cette répétition, hein? Nous avons un, nous avons quelqu'un. Il nous convenait d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés. Le Seigneur est parfait. Nous avons quelqu'un de parfait. Parfois, on dit, mais ouais, j'ai personne, j'aimerais bien avoir quelqu'un, j'ai personne. Et puis les personnes que j'ai, elles sont là, mais... Ben oui, les personnes qu'on a, lorsqu'on en a, ben elles ne sont pas parfaites. j'ai un conjoint, ben il a ses défauts. Alors c'est bien, mais parfois, qu'est-ce que c'est lourd, ce quelqu'un que j'ai à côté de moi. J'ai des frères et sœurs en Christ, il y a une église, oui, ça c'est vrai, j'ai une famille spirituelle, mais... Ben je te le dis, ils sont pas parfaits ceux-là, hein. Et des fois même ils sont blessants. Ben oui, parce qu'ils sont pécheurs. Et nous avons parfois des gens, hein. Mais souvent on est un peu déçus. Les gens qui nous entourent nous déçoivent parfois parce que nous avons l'impression qu'elles font pas ce qu'il faut à notre égard. C'est vrai. Et je sais que plus qu'à mon tour, je déçois les gens. Et chacun de nous peut se poser la question, est-ce que je déçois ceux qui peuvent compter sur moi à un moment ou à un autre, ou qui auraient voulu compter sur moi, je m'en suis même pas aperçu. Pas assez de sensibilité, pas assez d'attention, pas assez de tact, pas assez de désintérêt pour soi et chercher l'intérêt de l'autre avant le sien propre. Ah oui, parce qu'avoir quelqu'un, c'est quelqu'un qui ne cherche pas son propre intérêt. Oh là là, là 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 là. N'en rajoutons pas. Nous avons quelqu'un de parfait. C'est Jésus. Amen. Ah ouais, ça fait du bien. Parce que lui, il est sans tâche. Lui, il n'a pas ses propres péchés d'abord à traiter. Hein. Comme le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament qui devait d'abord traiter les siens et nettoyer sa gadoue. Ben le Seigneur, lui, il est parfait. Nous pouvons compter sur un souverain sacrificateur qui nous convient parce qu'il est sans tâche. Et du coup, c'est le verset juste qui précède, le verset 25. C'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il peut les sauver parfaitement. Le Seigneur peut nous secourir, nous sauver, c'est ce mot secourir, sauver, guérir. Nous repensons, hein, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. Eh bien, lorsque nous nous approchons, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent. Et tout est là. Est-ce que je m'approche? Est-ce que je réalise, comme dit le cantique, que Jésus est mon ami suprême? Que j'ai quelqu'un et qu'il est parfait, il ne me décevra pas. Il ne va pas me blesser par son péché, par ses travers, par son fichu caractère, par son égoïsme. Je vais avoir quelqu'un qui me convient, il nous convenait comme souverain sacrificateur. Il ne fera pas d'erreur. Mais ce n'est pas le tout. Non seulement nous avons quelqu'un qui nous comprend, qui est parfait, mais qui est puissant. Ça, c'est la troisième chose. Il est à la droite du trône de la majesté dans les cieux, nous dit le verset. Hébreux 8:1. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux. Et parce qu'il est assis dans les cieux, regardons un peu ce que nous dit Éphésiens. L'épître aux Éphésiens nous parle de la puissance qui agit pour nous qui croyons. Éphésiens, chapitre 1, verset 19. Et ce qui précède nous dit, on a besoin de le réaliser. On a besoin que nos yeux, dit le verset 18, s'illuminent où on a besoin d'ouvrir les yeux, de prendre conscience. Et de prendre conscience de quoi ? Verset 19. De quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Oui. Nous avons un souverain sacrificateur qui est puissant. Et cette puissance que Dieu a déployée pour le ressusciter des morts, elle est aujourd'hui envers nous qui croyons. Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Nous avons un tel souverain sacrificateur qui nous comprend, qui est parfait et qui est puissant. On le disait tout à l'heure, c'est bien d'avoir quelqu'un qui nous comprend, mais c'est mieux d'avoir quelqu'un non seulement qui nous comprend, mais qui va être capable d'agir, capable d'agir, capable de secourir. Oui, le Seigneur, il est près de nous et il est puissant pour agir. Il n'a pas les mains liées. Et lorsqu'on dit je n'ai personne, je n'ai personne. Je suis seul face à ça. Je suis seul face à ça. Non, tu n'es pas seul. Tu as quelqu'un et tu as quelqu'un qui est puissant et qui est capable de t'assister. L'apôtre Paul, dans sa défense en prison, au tribunal, il a vu la puissance de Dieu se déployer et dit « C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. J'ai vu le Seigneur agir. » J'aurais aimé que ce soit des amis, etc., qui fortifient mon âme, qui m'encouragent, qui m'épaulent. Ils n'étaient pas là, ils m'ont abandonné, mais j'ai vu quelqu'un qui est venu et qui l'a fait à leur place et qui l'a fait parfaitement parce qu'il est puissant pour le faire. Il dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Afin que sa puissance s'accomplisse. Il dit, c'est vrai, hein. Il dit, j'ai des calamités, j'ai des problèmes, etc. Il dit, mais finalement, à la fin, je peux presque me complaire là-dedans, je me plaire dans les calamités, pourvu que je vois la main du Seigneur en moi, qui me tient debout, qui me tient ferme, qui me fortifie, j'ai quelqu'un. Alors, est-ce que le Seigneur n'est pas capable de se tenir à nos côtés et de nous tenir debout et d'agir? On ne sait pas comment il agira. Ça, c'est sa réponse. Ça, c'est sa surprise. Mais il agira, à commencer par mon cœur. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et c'est bien là le principal, parce que qu'est-ce qui est le plus vulnérable, qu'est-ce qui est le plus fragile? C'est notre âme, c'est notre cœur, c'est quand tout commence à devenir noir, qu'on commence à déprimer, qu'on ne sait plus où on en est, c'est le trouble à l'intérieur. Mais c'est ça le plus terrible. Ce n'est pas ce qui se passe autour, ce ne sont pas les circonstances, c'est ce que ces circonstances créent comme ruine à l'intérieur de nous. Et le Seigneur nous a fait une promesse, c'est qu'il est présent, il est là, et il est capable que ce ne soit pas un champ de ruines. Il est capable de garder le dépôt. Amen. Il est puissant, comptons sur sa puissance, il nous étonnera. Et nous sommes étonnés, parfois lorsque nous voyons tel frère, telle sœur qui a traversé mais des choses difficiles, des épreuves, de se dire mais c'est pas possible de vivre de telles choses et de continuer à être debout avec une sérénité, avec la paix, avec la joie du Seigneur, sans amertume. Il n'y a que l'œuvre de Dieu qui peut le faire. Amen. Nous avons quelqu'un de proche. C'est la quatrième chose. On le voit en Matthieu 28. Non seulement nous avons quelqu'un, mais nous avons quelqu'un de proche. Bon, ça va sans dire, ça va ensemble. Parfois, on a des gens, mais ils ne répondent pas toujours au téléphone. Ils ne sont pas toujours disponibles. On sait qu'on pourrait compter sur eux s'ils étaient plus proches, mais ça manque de proximité. Eh bien, en Matthieu 28, verset 19, et c'est ainsi que l'évangile se termine, cette belle promesse, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On le relit ensemble, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'il est là? Il est là. Alors je vais apprendre qu'il est là. Je vais expérimenter qu'il est là. Et peut-être le Seigneur permet-il parfois que mes appuis traditionnels sur lesquels je compte me fassent défaut pour que j'apprenne que j'ai un tel souverain sacrificateur. Vous savez, notre nature humaine, nous, elle ne va pas vers le souverain sacrificateur. Notre premier homme, hein, le vieil homme, il ne cherche pas ce souverain sacrificateur. Mais l'homme nouveau, lorsqu'il est coupé de ses appuis, lorsqu'il se retrouve tout seul, parce qu'il est tout seul et qu'il ne sait plus vers qui se tourner, eh bien nous connaissons Jésus-Christ et nous pouvons apprendre et nous allons apprendre à rencontrer, à nous approcher du trône de la grâce, à rencontrer en face à face ce souverain sacrificateur qu'est Jésus. Formidable souverain sacrificateur qui est à la fois le sacrifice et le sacrificateur. Il s'est offert lui-même. Une dernière chose, quelqu'un de compréhensif, quelqu'un de parfait, quelqu'un de puissant, quelqu'un de proche et quelqu'un d'attentif. Quelqu'un d'attentif. On le voit en particulier en Hébreux 7, 25, nous avons cette oreille du Seigneur qui se penche, qui est attentif à nous et qui est actif. Hébreux 7, 25. C'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Ça, c'est un de ses rôles principaux comme souverain sacrificateur. Il intercède pour nous. Il est attentif à ce qui nous concerne et il va prendre ce qui nous concerne, il va prendre nos besoins, il va prendre les petits détails. Il va les présenter au Père. Il va prier pour nous. Il va intercéder en notre faveur. Intercéder, c'est cette idée que, oh, c'est pas qu'on le mérite. Peut-être même on le mérite sûrement pas. Peut-être même dans l'histoire de nos problèmes et de nos troubles et de tout ça, on n'est pas tout à fait innocent. peut-être qu'on on s'est fichu un peu dedans aussi. Ben oui. Ben nous avons un souverain sacrificateur qui va quand même intercéder pour nous. Il va quand même intercéder pour nous. En notre faveur. Il prie le Père pour nous. Il est notre avocat auprès du Père. Amen. Un avocat? Quelqu'un d'attentif qui nous connaît si intimement et qui va prendre ces choses et va intercéder pour nous. Alors, nous qui connaissons ainsi Jésus, ne disons pas, ne pensons pas, je n'ai personne. Lorsqu'il y a une pensée qui vient comme ça, j'ai personne. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. C'est un mensonge de l'ennemi qui veut nous décourager, qui veut nous convaincre que dans nous tenir dans notre misérabilisme peut-être, et qui en rajoute. T'as vu, t'es tout seul. T'as vu ce qui t'entoure, t'as vu ta famille, tes frères et sœurs. T'as vu ta fille. T'as vu tes petits-enfants? T'as vu les chrétiens, là? Ouais. Je suis tout seul. Eh bien non! Ça, c'est un mensonge de l'ennemi pour nous tenir la tête sous l'eau. Ce que sont les autres, ça les regarde. Paul priait en disant que cela ne leur soit point imputé. Et cela lui a permis, cette défection des autres, d'expérimenter que c'est le Seigneur qui l'a assisté et qui l'a fortifié. Voilà. Quelle expérience extraordinaire il a pu faire dans cette épreuve. Alors remercions le Seigneur. Nous avons quelqu'un qui nous aime. Nous avons quelqu'un qui s'est sacrifié pour nous, et nous terminerons même en disant, il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, et pour avoir un tel souverain sacrificateur, c'est lui qui a été abandonné. Ésaïe 53, verset 3. Ésaïe 53, verset 3, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas, cependant ce sont nos souffrances qu'il a porté. Et en Marc 15, verset 34, nous le voyons sur la croix, ce souverain sacrificateur, Marc 15, 34, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous avons un tel souverain sacrificateur qui a été abandonné des hommes et qui sur la croix, parce qu'il a porté nos péchés, Dieu a détourné son visage de lui, parce qu'il portait nos péchés, il a été abandonné de Dieu pour que nous ne soyons jamais seuls. Nous avons quelqu'un Amen. Alors, dans nos moments de découragement, lorsque la voix de l'ennemi est là, qui nous susurre, tu es tout seul, il n'y a personne, et qui commence à... Et puis en plus, il y a de l'amertume qui est là, etc. Seigneur, n'impute pas, s'il fallait imputer quoi que ce soit. Et Seigneur, toi tu es là, j'ai un tel souverain sacrificateur. Et je veux te connaître comme celui qui est là pour moi. Et l'auteur des Hébreux ne s'y trompe pas, il dit le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur. Amen. Prions. Merci Seigneur, parce que tu veux te révéler à nos cœurs, comme ce quelqu'un qui est là, quand nous n'avons personne. Toi tu es là. Tu as été seul, tu as été abandonné, tu as vécu cette solitude pour que nous, tes enfants, nous puissions chanter « Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. » Et c'est en ton nom que nous prions, en te demandant que tu nous fasses réaliser et vivre et nous réjouir, Seigneur, dans l'adversité de ta présence dans nos vies. Amen.